là, on a parlé des sanctions pures et dures, hein, les banques, etc. Puis il y a aussi des, on va dire, des sanctions symboliques qui touchent la culture, le sport, hein, vous avez vu. Ouais. Il y a par exemple le Royal Opera House qui a annulé la venue du ballet du Bolshoï, pareil aux États-Unis. Alors, ça reste symbolique. Il y a même la Russie qui a été exclue de l'Eurovision de la chanson. Ouais.
Oui, ah, mais
c'est du symbole.
D'ailleurs, à ce sujet, Thierry, bon, je ne suis pas spécialiste de l'Europe de l'Est. Mais c'est une décision qui va marquer les esprits en Russie.
Exactement.
Parce que l'Eurovision, apparemment, a un succès colossal en Russie.
C'est quelque chose qui est très, très important. C'est exactement. Non, mais tu as raison. Tu as raison. À Zagreb, c'est l'orchestre philharmonique de la ville qui a annulé deux œuvres de Tchaïkovski. Qu'est-ce qu'on a en sport ? Annulation du Grand Prix donc de Sochi, des sportifs déclarés persona non grata, notamment en Grande-Bretagne, en Norvège, en Suède, le refus des Polonais et des Suédois et des Tchèques d'affronter la Russie au barrage du Mondial 2022. Bah, depuis, de toute façon, ils ont été exclus de la compétition, ils ne participeront pas au Mondial. Et puis le pompon, hein, c'est la Fédération internationale de judo qui suspend Poutine. Voilà, donc il ne pourra plus participer.
Alors qu'il est, il est ceinture noire, huitième d'un.
Ouais, ouais. Après l'Europe, on va revenir en France, même si on va parler encore d'Europe, mais on revient en France, Les pro-Poutine, depuis longtemps, se retrouvent, comme qui dirait, un peu gênés aux entournures. Je vous propose d'écouter un petit florilège.
Le problème de l'Ukraine n'est pas, si vous voulez, que la Russie menace d'une invasion, je n'y crois pas. La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine.
Ah ouais. Vous pensez que Vladimir Poutine n'a toujours pas l'intention de le faire, même s'il y a eu une cyberattaque hier sur Kiev, même si les Occidentaux disent aujourd'hui que c'est pas confirmé, mais enfin, vous n'avez pas.
Non, je ne le crois pas, mais je suis pas la seule à pas le croire. Les dirigeants ukrainiens n'y croient pas du tout non plus.
Je considère que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont dans la position agressive et non pas la Russie.
Respectueux des droits de l'homme, voyez. Donc il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur. C'est Poutine l'agressé.
Dans cette affaire, vous êtes quand même l'un des rares hommes politiques à trouver des circonstances atténuantes à Vladimir Poutine quand il masse ses troupes autour de l'Ukraine. Dans cette affaire, vous considérez-vous que c'est l'OTAN l'agresseur ou que ce sont les Russes ? C'est l'OTAN l'agresseur.
Sans aucun doute. Mmh. Pour moi, hein.
Je dirais que Poutine ressemble beaucoup, il aurait pu être français. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'il prend un pays qui a été un empire, qui a été une grande puissance et qui est un empire en déclin et il essaye de le redresser. Vous voyez, on a connu ça après.
Vous rêvez d'un Poutine français ?
Ah oui, j'en rêverais, oui.
Je pense qu'il représente aussi une nouvelle vision. Il a émergé un nouveau monde dans ces dernières années. C'est le monde de Vladimir Poutine, c'est le monde de Donald Trump aux États-Unis.
Est-ce que vous pensez, comme certains, que Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se sont disqualifiés pour la présidentielle?
Moi, si je peux me permettre, oui. Je ne mettrai pas les trois dans le même panier. Quand même.
Non, tu mets Jean-Luc un peu de l'autre côté. Mais je m'en doutais aussi.
Mais je vous invite à écouter sa réaction hier soir. Sur BFM TV.
Oui, ben il essaie de rattraper, de se raccrocher aux branches.
Hier soir, suite à l'intervention du président de la République, où il a dit un peu ce que j'ai dit moi, je dis ça pas parce que je répète comme un perroquet, mais parce que je le pense vraiment, je pense que ça serait injuste de le mettre dans le même sac, même si je partage pas toutes ses prises de position, loin s'en faut. Mais quant aux deux candidats d'extrême droite, notamment Marine Le Pen, il faut quand même rappeler que il y a 5 ans, elle a pu faire campagne, financer sa campagne grâce à des prêts avec la Russie, les banques russes. Mmh. Alors bon, forcément quoi.
Qu'elle a toujours pas remboursé.
Je sais pas si elle les a remboursés.
Non,
d'ailleurs.
Toujours pas. Non, c'est toujours sur l'ardoise. Une réaction ?
Ouais. Moi, je te remercie Thierry d'avoir diffusé ces moments-là parce que ça permet aux auditeurs aussi de se rendre compte que finalement, on a des candidats à l'élection présidentielle qui sont capables de faire de formidable rétro-pédalage. Ouais. Je pense qu'en natation en marche arrière, il serait champion olympique pour certains. Bon, Jean-Claude évoquait Jean-Luc Mélenchon. Je suis pas mélenchoniste, ça se saurait, mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est quand même proche de Maduro, on en parlait tout à l'heure, le président vénézuélien qui a encore 48 heures donné raison pleine et entière à Poutine. Voilà. Après, Marine Le Pen et Éric Zemmour, on sait quelles sont les relations d'admiration qu'ils peuvent avoir pour Poutine. Ils ont rétro-pédalé eux aussi ces derniers jours. Mais en tout état de cause, ça signifie bien ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que cette intervention en Ukraine, personne ne l'a vu venir. Et même le président Macron, il y a 15 jours, 3 semaines, disait lui aussi, je pense qu'on n'en arrivera jamais à une intervention militaire.
Personne n'y croyait.
Enfin... Tout le monde s'est planté royalement.
Même le président ukrainien, hein, il n'y croyait pas. Hein. Ah oui. Il n'y croyait pas, lui, non plus.
D'ailleurs, entre nous soit dit, chapeau.
Ouais.
Ce président ukrainien qui était apparemment en bas dans les sondages il y a 15 jours, 3 semaines, il est en train d'endosser les habits d'un président agressé, parce que c'est bien ça.
Oui, oui.
Et sa population, je pense, lui voue une très très forte confiance à juste titre. Et
c'est alors,
le président résistant.
Alors toi, tu penses à ça, mais Francis Lalanne, non.
Ah oui, il existe encore, lui.
Eh oui.
C'est ce que j'allais dire.
Non, parce que là, je me suis intéressé aussi à la fachosphère, hein, comme on l'appelle, la désinformation, le complotisme, et évidemment notre ami Lalanne est sorti, alors je l'appelle le décérébré aux bottes de cuir, il est sorti donc de sa réserve,
du coq à Lalanne,
et il c'est ça, il a tweeté, surpris de voir une vidéo de ce comédien menteur, président de l'Ukraine, disant qu'il était à Kiev, alors que hier plusieurs dirigeants européens, dont Mario Draghi en Italie, avaient dit qu'il était caché. En fait, il ment à son peuple. Il a bien fui Kiev et ses vidéos étaient pré-enregistrées. Ce type est un psychopathe.
Ouais.
Voilà, signé Francis. C'est, alors depuis,
de qui ça vient.
Depuis son, depuis,
impressionnant, hein.
Depuis son compte donc a été suspendu. Donc, je jure que c'est vrai. Oui.
Comme Trump.
Je jure que c'est vrai. Voilà. Mais c'est aussi parce qu'il avait annoncé qu'il allait composer une chanson en l'honneur de la Russie. Là, Vladimir Poutine a brandi la menace nucléaire. Hein. Donc, alors, on continue avec toujours dans la fachosphère. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Ah, Philippot.
Ah oui,
ah bah oui, oui. Philippot.
Ah oui, j'ai vu que tu avais rigolé. Il a eu une signature, lui.
Égal à lui-même.
Florian Philippot.
Alors lui, il a tweeté « Désinformation sur la guerre d'Ukraine, on retrouve les mêmes zozos, les mêmes que pour la désinformation sur le Covid. » Fin de citation. Je pense qu'il devait te parler de lui. Non mais, je pense qu'il était en introspection. Donc c'est pas mal, Philippot. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, ça a été quand même assez surprenant. Je vais vous faire écouter ça. C'est Robert Ménard. Vous connaissez tous Robert Ménard.
Oui, le maire de Béziers.
Le maire de Béziers, qui avait été un soutien de Marine Le Pen. Ouais. Eh bien, il est en train d'en revenir, Robert. Ah, il est en train d'en revenir. Écoutez ce qu'il a dit.
J'ai été sidéré quand même. Quand notre pays vit une crise comme ça, il me semblait qu'à un moment donné, on pouvait oublier la politique politicienne et s'intéresser et défendre les intérêts de notre pays. Moi, je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de choses avec le chef de l'État, mais enfin, il a essayé de faire le job. Il n'a pas réussi, je ne vais pas lui en tenir rigueur. C'est les mêmes. Qui, s'il n'avait pas fait tout ça, lui aurait reproché de ne pas s'être mobilisé. Mais vous savez, il y a un tropisme pro-russe et de temps en temps pro-dictateur dans mon camp. Ils adorent les gens qui... Enfin, j'allais être grossier, vous savez, qui en ont, qui savent taper du poing sur la table. Les droits de l'homme, ils sont contrebalance. Vous parlez des droits de l'homme avec mes amis, ils vous répondent « droit de l'homisme ». Moi, ça me sidère, mais ce que je dis là, je vous l'ai dit. Quand j'entends un certain nombre de gens, parmi eux, je ne vais pas les citer les uns aux autres, j'ai l'impression que c'est les éléments de langage du Kremlin. Mais ils sont fous. Non, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas piétiner la souveraineté ukrainienne comme ils le font. Il n'y a pas des pays qui vont vivre avec, vous savez, une laisse que tiendrait le Kremlin. Moi, ça me choque profondément, mais c'est peut-être parce que mon histoire, elle est celle des droits de l'homme pendant des années, que je ne comprends pas qu'un certain nombre de mes amis ne se mettent pas 5 minutes à la place d'un opposant à M. Poutine. Je crois que dans le camp de la droite nationale, je ne sais pas comment il faut dire, mais pas que de la droite nationale, une partie des Républicains, j'ai en tête un certain nombre de déclarations, oui, il y a une espèce d'anti-américanisme tel que ça te jette dans les bras des Russes. Et vous le voyez au moment de cette crise. Honnêtement, moi, ça me sidère. Et quand j'entends d'autres expliquer, oui, mais attention, vous allez voir les retombées difficiles, vous savez, pour notre pouvoir d'achat et tout. Mais je croyais qu'on était des gens de panache. Je croyais qu'on était des gens de principe. Je croyais que la liberté, ça valait mieux un certain nombre, quelques sacrifices.
Tu vois, quand j'entends Robert Ménard, Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il raconte. C'est terrible de dire ça, hein, parce que je suis très loin politiquement de lui. Mais il a une analyse très proche de ce que je dis. Mais Robert Ménard, il faut se rappeler...
Mais qu'il faisait partie de l'association...
C'était...
Les médecins sans frontières.
Donc, on comprend mieux pourquoi il dit ça.
Bien sûr.
Parce que moi, j'ai jamais compris pourquoi il s'était ultra-droitisé, Robert Ménard.
Ultra-radicalisé.
Ouais. J'ai jamais compris. Et en fait, il revient... À ses premières amours.
À
son origine. Et bravo. Ouais. Parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne
changent pas d'avis.
Qui changent pas d'avis et qui ne se trompent pas. Et manifestement. Mais puisqu'il parle de la politique politicienne, moi, il y en a une que je voudrais pointer quand même là.
Attention, oui. qui prend
mais une des candidates. Qui est candidate de la droite, les Républicains.
Valérie Pécresse.
Valérie Pécresse, encore hier soir sur la 5.
Sur la 5.
Elle s'est permis de faire de la politique politicienne. Moi, j'admets pas. Vu la gravité de la crise, je pense qu'il faut arrêter avec la politique politicienne. Je comprends qu'elle soit en campagne électorale.
On va en parler de Valérie Pécresse. Je vous fais écouter seulement un petit truc. Un truc sur la campagne.
Alors, mes amis, crise Covid, crise ukrainienne, le président se cache. Il cherche à échapper... au débat démocratique.
Voilà.
Voilà. Excuse-moi, c'était de ça que je voulais parler. Et ça, je le dis, ça serait pareil pour des candidats que je soutiens, parce que j'en soutiens en particulier. S'il avait les mêmes propos, j'aurais la même critique. C'est pas normal que dans une crise aussi grave, on est peut-être face à une crise mondiale, là.
On l'est.
Troisième guerre mondiale, on est face à ça, et il faut qu'on se calme là. Il faut arrêter. Il faut qu'elle a des responsabilités en tant que candidate.
Alors, parlons-en de Valérie Pécresse. Comment vous expliquez son effondrement? Parce qu'à un moment, elle était quand même assez haut dans les intentions de vote. Aujourd'hui, elle est en train de s'écrouler. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de ce qui aurait pu être ses soutiens et qui sont en train de basculer du côté obscur de la force, du côté du président. Je vais citer par exemple Jean-Pierre Raffarin.
Oui, hier.
Voilà, c'est un exemple. Hein. Renaud Muselier.
Oui.
Arnaud Murgia.
Oui.
Par exemple. Qu'est-ce que j'ai encore? Éric Woerth. Oui. Voilà. Elisabeth Doineau. Alors, elle est sénatrice UDI. UDI qui est un parti qui officiellement soutient Valérie Pécresse.
Et puis il y a ceux de gauche. Il y a...
Ah bah oui. Et j'ai vu qu'il y avait Jean-Pierre Chevènement.
Ouais.
Oui. J'ai vu qu'il y avait Manuel Valls aussi.
Manuel Valls.
On en parle tous les.
Après Barcelone.
Valls, on en parle depuis. Barcelone. À chaque fois, à chaque émission, on en parle.
Ah, mais lui, il veut être ministre.
Bah oui. Donc
c'est normal.
Mais il l'a dit. Hein. Mais il l'a dit. Il s'en est pas caché. Il est arrivé. Il a dit moi, les gars, je suis prêt. Hein. Alors moi, on m'appelle. Je suis là. C'est mon job. C'est mon job.
J'ai des trucs à dire.
Voilà. Valérie Pécresse.
Et ben moi, je trouve dommageable tout ça, plutôt que de toujours critiquer, elle ferait mieux de développer son programme, et si ça fait pas, mais pour le coup, le fait de critiquer bassement dans cette situation, dans cette conjoncture, ça l'honore guère, et effectivement, il y a des gens qui partent parce que c'est insupportable. Et puis, bon, c'est vrai que sa prestation correspond peut-être pas tout à fait à ce que les gens de droite attendent.
Imaginez.
Exactement. Ça n'entache pas forcément ses qualités, la personne. Mais là, pour le coup, son jeu de rôle la dessert cruellement et va desservir effectivement la politique, enfin les partisans de droite. Ouais.
Jean-Baptiste,
tu nous as posé la question, Thierry, de savoir ce qui avait été l'élément déclencheur de sa chute dans les sondages.
Oui.
À mon point de vue, c'est son fameux meeting
du
Zénith, qui a été raté, il faut appeler un chat un chat. En tout cas, c'est le message qui a été véhiculé dans la presse parlée, la presse, la télévision. Petit hommage d'ailleurs à quelques heures après le décès de Jean-Pierre Pernaut à tous ses animateurs et présentateurs télé et radio. En tout cas, Jean-Pierre était un grand journaliste qui mettait à l'honneur nos départements, nos territoires, juste un petit clin d'œil pour lui.
Ouais.
Oui, donc Valérie Pécresse, je pense qu'elle a mal négocié son virage Zénith, qui en l'occurrence n'a pas vraiment bien porté son nom pour elle. Et je crois que effectivement, elle a peut-être une posture qui est trop dans, j'allais dire, l'élection présidentielle actuellement. On vit, Jean-Claude l'a dit, une crise majeure et mondiale. Et moi, je commence à le dire dans mon entourage, je crois que la campagne présidentielle, elle est terminée. Oui. À mon avis, c'est fini.
Est-ce qu'on aurait
dû... Il reste cinq semaines.
Est-ce qu'on aurait
dû... Moi, j'avoue que je suis plutôt... naturellement partisan de Valérie Pécresse parce que je le disais, je suis plutôt du centre droit comme Valérie Pécresse et Gapin 16, il faut pas l'oublier. Si elle était présidente de la République, je suis sûr que ça serait un formidable coup de boost pour notre département. Maintenant, je peux comprendre aussi que les cartes soient un peu rebattues parce que quand on regarde la situation internationale, Emmanuel Macron d'ailleurs prend des points dans les sondages actuellement parce que il gère la situation internationale.
Est-ce que tu penses que on aurait dû, même si c'est pas possible, hein, mais bon, on aurait reporter l'élection.
Non, je crois pas.
Moi, j'ai pensé à un moment, mais j'ai recherché, c'est la Constitution le prévoit pas, donc ça sert à rien de...
Ah si, ça prévoit, uniquement si un candidat qui meurt, ou un candidat important qui se retire, d'après ce que j'ai compris, mais bon, ça reste quand même...
Mais par contre, moi, je voudrais revenir sur la politique locale, parce que le retrait, le changement d'orientation du maire de Briançon, c'est très très étonnant. Moi ça m'a fortement impacté hier parce que lui, on peut pas dire que c'était un divers droite, c'était LR pur et dur.
Oui.
Ancien président de la Fédération des Hautes-Alpes.
Ah, LR pur et dur. Pur et dur qui bascule chez Macron. Alors moi je me dis deux choses.
Comment tu analyses ?
Moi, est-ce qu'il ne va pas être candidat finalement à la députation avec les couleurs Macron ? Parce que de ce que je sais, c'est que Joël Giraud, d'ailleurs c'est la maire d'Ambreuil.
Joël l'a dit nous-mêmes. Il était invité sur Alpen il y a quelques jours. Il a dit, moi je n'irai pas, sauf si Macron me le demande.
Oui, mais sauf que ce que disent d'autres, c'est qu'il serait candidat dans un autre département.
Ça, c'est une autre possibilité.
Alors, si Joël a décidé d'aller dans un autre département, il y a quand même une place qui se prépare là. Et comme on pense tous
que Chantal ne veut pas y aller.
On pense tous que c'est Macron qui va être élu. Je veux dire, il n'y a plus de secret.
Facile de lire dans une boule de cristal qui, à mon avis, n'existe plus.
Voilà. Donc ça va être un macroniste qui va être élu dans le haut du département. À la suite de Joël Giraud. Et là, le maire de Briançon qui est
pas... Tu veux dire qu'il se positionne ?
Ben, il se positionne. En plus, le président de région s'est positionné. Ils ont dû avoir quelques conversations. Et donc, par contre, moi, là où je m'adresse à un conseiller, maire, conseiller départemental, ça va quand même poser un problème au niveau de la majorité du conseil départemental. Parce que il est dans la majorité pour l'instant.
Vice-président.
Mmh. Et je me rappelle bien que dans la mandature d'avant, il y avait la députée Aigui Blanc qui était la REM, qui était dans l'opposition.
Tout à fait.
Et là, qu'est-ce qui va se passer avec quelqu'un qui est plus LR, manifestement, qui a basculé chez Macron? Qu'est-ce qui va se passer dans la majorité départementale? En plus, le comité de soutien, on le sait, de Pécresse, est co-présidé par le maire de Gap et le président du conseil départemental. Et voilà pas que Murgia bascule de l'autre côté.
Peut-être que d'autres vont basculer aussi.
Est-ce que ça ne va pas amener une crise politique au sein du conseil départemental? C'est la question que
ça, je n'en sais rien, Jean-Claude, puisque je le disais tout à l'heure, moi je suis indépendant, donc je vais regarder ça d'un œil avisé, intéressé, parce que la chose publique m'intéresse bien sûr, mais il est certain que cette décision va gêner un certain nombre de membres de l'exécutif. Et moi je le vois comme ça, je peux me tromper.
Tu es un peu suisse, toi, en fait.
Non, je suis pas suisse. Non, je suis pas neutre parce que je le disais, mes convictions, je les ai. Mais pour autant, je pense qu'effectivement, cette décision. Cette décision surprend, elle peut se comprendre. Après, je ne suis pas là pour être l'avocat d'Arnaud Murgia, mais souvent, il affiche son amitié très forte avec Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Donc, ça voulait aussi dire quelque chose. Depuis quelques mois, qu'il fasse souvent référence à ces deux ministres extrêmement importants du gouvernement Macron.
Dernière chose, les parrainages. Vous savez, tous les 5 ans, on nous beurre l'arrêt avec les parrainages en disant il y en a qui pleurent. Ah, mais je les aurais pas.
Elle a même arrêté sa campagne.
Résultat des courses, comme chaque année, tout le monde va les avoir. Bon, sauf Madame Taubira, hein, mais elle est partie de trop loin, je pense. Mais tout le monde va les avoir. Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Emmanuel Macron, Hidalgo, Fabien Roussel, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon, il m'en manque un.
Il y a Poutou qui n'y a pas.
Et Poutou. Ah non, Poutou, il n'y a pas. Il m'en manque un. Éric Zemmour.
Jean Lassalle.
Voilà. Jean Lassalle. Oui, voilà. Ils sont 11. Ils sont 11.
Il y a 11 candidats.
Bon, après, il y a Poutou.
Quand il y a une question que tu n'as pas posée, qui est très intéressante,
Nathalie Arthaud. Oui, exact.
À quel moment le président Macron va déposer sa candidature? Faut qu'il la dépose avant
lundi?
Vendredi 18h. Parce que là, faut le dire à tes auditrices et tes auditeurs.
On enregistre jeudi.
D'ici que ça passe, il peut y avoir du changement.
Ouais.
Y compris, la guerre peut avoir malheureusement progressé d'un mauvais côté. Et puis, il y aura la candidature Macron qui forcément sera déposée.
On est jeudi, il va peut-être l'annoncer ce soir.
Oui, peut-être.
J'ai trouvé, moi, Michel et Jean-Claude y ont fait allusion, j'étais, sans être macroniste, je l'ai dit, j'étais heureux de voir qu'hier, ils ne disent rien à ce sujet.
Oui. Bah oui.
Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, là, franchement, ça serait extrêmement malvenu qu'ils disent quoi que ce soit, il ne l'a pas fait. Mmh. Il ne l'a pas fait.
Honnêtement, sa déclaration d'hier soir, je l'ai dit au début de l'émission,
tu te répètes.
Elle était très calibrée, très mesurée. Franchement, il a dit ce qu'il fallait dire. Parce que il est président au niveau européen. Et donc il a un rôle majeur à jouer. Dans la période, on peut pas faire l'impasse. S'il veut aller discuter avec Poutine, il faut pas qu'il traite de dictateur. C'est lui qui va aller discuter avec lui.
Il peut pas.
Tu as donné ton parrainage ou pas ?
Non, je n'ai pas donné de parrainage. Pourquoi je ne l'ai pas fait en 2022 ? Parce que je ne l'ai pas fait en 2017 et je ne l'ai pas fait en 2012.
D'accord.
Okay. C'est vrai que j'ai toujours dit que je ne parrainais pas. Alors, on pourrait dire, la critique étant facile, on pourrait dire, oui, mais si tous les élus pouvant parrainer ne parrainaient pas, il n'y aurait jamais d'élection présidentielle. Mmh. Yes, c'est vrai.
C'est pas faux.
Bon, pour autant, moi je pars du principe que pour accorder son parrainage, ou en tout cas pour recevoir un parrainage, il faut que le candidat soit convaincant. Je ne dis pas que je ne suis pas convaincu par des candidats, mais personne ne trouve totalement grâce à mes yeux, honnêtement. Et puis, à Châteauvieux, je n'ai pas été élu dans une posture politique. Dans mon conseil municipal, il y a des gens qui sont à droite, à gauche, au milieu. Voilà. Et au conseil départemental, on a été élu aussi avec Séverine Rambaud sur une ligne qui était celle de l'indépendance. Ça ne veut pas dire, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on n'avait pas nos idées et nos opinions, on travaille bien avec tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas un jour dans une majorité, mais je n'ai pas accordé de parrainage. Et tu parlais de Christiane Taubira tout à l'heure. La pauvre, j'ai envie de dire, la pauvre. Elle a été grande ministre, c'est ministre d'importance.
Un des rôles,
garde des Sceaux, c'est pas forcément ce que je pense, mais en fait, elle a été l'un des ministres phares de François Hollande. Aujourd'hui, c'est elle qui a fait passer le mariage pour tous. Mmh. Aujourd'hui, elle a eu 181 parrainages sur les quelques 40 000 personnes qui aujourd'hui peuvent parrainer en France. C'est un fiasco pour elle. C'est un fiasco pour elle. Et c'est pour ça que je disais, ne pas arriver à collecter 500 parrainages quand il y a potentiellement 40 000 personnes qui peuvent parrainer, ça pose un problème peut-être de conviction. Il y a celui...
Problème de candidat aussi.
c'est ça. C'est pas faux, mais ça interroge aussi. Voir des gens comme Nathalie Arthaud qui vont finir à 0,3%, avoir 600 ou 700 parrainages et quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comme Zemmour ou Marine Le Pen, qui vont faire...
Limite, pense, 620 pour Zemmour et 18
pour Marine Le Pen.
620 pour Zemmour. Voilà. 620, il a eu, et 503 pour Marine Le Pen.
Voilà. Après, la question, puisque tu abordes ça, j'allais dire, le côté public des parrainages. Il y a des maires que ça gêne, je peux comprendre. Et c'est plus facile aujourd'hui de parrainer Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse ou Anne Hidalgo que de parrainer un candidat d'extrême gauche ou d'extrême droite.
À l'inverse, c'est Hidalgo qui obtient 1544. Ou 1200. Bon, enfin, elle en a un paquet. Ouais. 1300, on va dire, hein, à la louche. Et dans les sondages, elle est donnée à 1,5 aujourd'hui. Hein.
Ouais.
Maire de Paris.
C'est compliqué.
Maire de Paris, parti socialiste qui a quand même gouverné la France. Hein.
Ouais, ouais, c'est compliqué. Quand même,
un effondrement
total.
On va terminer avec un sourire, si vous voulez. Ah. Voilà, un petit sourire que je suis tombé dessus, ça m'a fait rire. C'était cette semaine, Laurent Gérard. Avec, je vous laisse écouter.
Bonjour à Saint-Denis.
Bonjour Philippe de Villiers.
Salut à toi, fille de radio.
Ouais.
La croisade pour la France éternelle commence ce matin. Alors, on va sceller mon cheval, la gueuse.
Oh, non.
Et n'oublie pas la monture d'Éric le Garroyeur.
Il lui faut un cheval à lui aussi ?
Sur Alice, fille de radio. Pour Éric, on se contentera d'un poney. Un poney du jardin d'acclimatation. C'est tout frais.
Oui, c'est à côté.
Je crois que Noisette a fini son tour avec un petit 5 ans. Ça ira très bien pour notre nouveau héros. Enfin, héros H-E-R-O-S, mais héros H-E-R-O-T.
Oui.
C'est pas Spider-Man que tu reçois, c'est le prince Eric.
Le prince Eric ?
C'est vrai qu'il a plus le physique d'un vendeur de ceintures aux puces de Saint-Ouen que d'un scout norvégien aux boucles blondes, mais c'est ainsi. J'ai choisi le pro-Eric pour livrer bataille contre les mahométans.
Vous êtes d'ailleurs la première personnalité d'importance à avoir déclaré votre soutien à Éric Zemmour.
Ah ouais, et je le prépare à la campagne, le petit. Grâce à moi, il est prêt à affronter le roi Micron Ier ou la duchesse du serre-tête en velours Pécresse.
Bon, très bien, alors comment l'avez-vous préparé ? Grâce à des séances de coaching ?
Que nenni la gueuse. Tu nous vois tous les deux dans un open space avec des PowerPoint. Non. Ces bilvesées anglo-maastrichtiennes sont bonnes pour les bourses molles. Ah. L'entraînement du petit Eric a eu lieu au pied du fou. Mes chevaliers, mes lanceurs de couteaux et mes cracheurs de feu lui ont tout appris.
Oulala, là là, il n'y a pas eu d'incident.
Le seul incident que je déplore, c'est quand un jeune touriste a cru qu'on recréait Fort Boyard au puits du fou et qu'il a pris Eric pour passe-partout. D'ailleurs, tu diras à ton cantinier Lignac de ne pas servir à Éric Zemmour ses habituelles salades détox, mais de solides victuales qu'on nous apporte poularde, jarret de porc, gruau, pâté et autres frometons roboratifs. Il faut le remplumer, le Zemmour. On ne gagne pas la guerre quand on fait 35 kilos.
Voilà, un petit clin d'œil.
C'est génial. J'ai écouté cette séquence de Laurent Gérard. Ça fait du bien à tout le monde. Des gens comme ça ont meuvré les.
Ah ouais. Remboursé par la sécu.
Il est bon de rire. Il faut rire tous les jours, les enfants. Ouais. Il faut rire tous les jours.
Merci Thierry de nous avoir fait rire.
Merci. Alors, sur ces bonnes paroles, eh bien, on va se quitter aujourd'hui, se retrouver la semaine prochaine. Jean-Baptiste Ayot était avec nous. Merci Jean-Baptiste.
Merci beaucoup Thierry, merci au Cocalier, Michel et Jean-Claude, merci. Ça a été un grand plaisir de passer.
Tu reviendras ?
Ah, très très volontiers.
Alors super. Jean-Claude, merci Mimi, merci. Passez un bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine.